C'est moins cher dans le marché couvert. Allez, allez, allez.
Allez, 3 pizzas gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, 12h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bienvenue les amis, swingez, installez-vous, la table des bons vivants ouvre ses rallonges pour accueillir tout le monde, produits de saison, recettes et conseils pour vous servir. Fille de l'automne et de l'été, la poire va se mettre à table dans un instant, qu'on se le dise. Notre dossier du jour, lui, sera consacré à l'alimentation et la santé. Et on a plein de choses à vous dire, des choses d'actualité, comme on dit. Voici les bons vivants du samedi. Curieux et plein de bon sens, il nous fait profiter de ses découvertes en cuisine. Yves Candebord est avec nous. Bonjour Yves.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Et il est avec son kimono puisqu'il est de retour du Japon.
Tout à fait.
Ce vénard.
Je suis allé supporter l'équipe de France de rugby.
Vous avez bien fait. Mais bon, il y a encore du boulot, hein. Quand il faut trancher pour la bonne bouteille, il sait vous mettre sur la bonne voie, avec ou sans sulfite. Eh bien, il nous dira. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Laurent. Bonjour Yves. Arigato.
Arigato.
Marion Sauveur nous rejoint dans un instant avec son journal de la cuisine. Et Jean-Luc Petit-Renaud a posé ses bagages à la gare de Lyon. On va faire une belle échappée dans un restaurant magnifique. Pour partager le plat du jour, nous recevrons un grand nom du journalisme, ancien rédacteur en chef du Monde, créateur du magazine Zadig, le bon vivant Éric Fotorino sera avec nous. Ben voilà. Voilà, vous savez tout. C'est parti, les amis. Alors, avant d'aller faire un tour sur le marché d'Aulnay-sous-Bois, prenons le temps de retrouver le goût qui a marqué notre semaine. Vous, à la maison, en cuisinant ou dans votre voiture, eh bien, réfléchissez au goût qui a marqué votre semaine. On va commencer par vous, Yves Candebord.
Et moi, c'est un goût qui marque ce week-end. C'est un festival culturel, culinaire et débonnaire qui s'appelle Entremets, qui se passe à Chartres. Alors Laurent, c'est pas un festival qui est sponsorisé par Métro.
Ah, ça c'est bien. Oui, oui, il y a des choses à dire sur ça. Oui, tous ces grands chefs qui se retrouvent avec des toques bardées de publicité. Oui, ça c'est
étonnant. Des combinaisons de pilotes
ah,
de
oui,
formule.
Ça fait peur. Ouais.
C'est un festival où justement il y a des interventions de chefs. Il y a surtout des tables rondes très intéressantes. Il y a énormément de dégustations de produits et il y a un championnat du monde. Le champion du monde des pédenones.
Ah,
je trouve ça très rigolo.
Mais vous y participez d'ailleurs.
Alors, j'ai été le jury l'année dernière et cette année, je vais leur donner un coup de main, je vais y participer.
Ah, c'est bien.
Mais
ça.
Je suis hors concours.
Ça s'appelle Entremets et c'est
à Chartres. Ça a commencé vendredi, donc hier, et ça dure jusqu'à lundi.
Eh bien, merci Yves. Olivier Pouls, votre goût de la semaine.
Direction Lyon. Je suis allé me balader dans cette belle ville, haute capitale de la gastronomie, s'il en est, et notamment dans ces Halles Paul Bocuse que j'adore. Il y a quand même là-bas un foisonnement d'artisans extraordinaires et je n'ai pas pu résister, j'ai rapporté des quenelles.
Ah, ça,
j'adore la grande quenelle.
Ah.
Puis c'est un truc qu'on n'arrive pas à faire.
Marion Sauveur bondit de joie quand vous parlez de quenelles. Je crois qu'elle est très fan.
Et bien voilà, donc je me suis arrêté à la maison Giraudet qui réalise d'excellentes des quenelles traditionnelles, évidemment, brochet, j'ai ramené volaille. Et puis même une petite quenelle de saison au girolle.
Ah, très bonne. C'est bien,
voilà.
Avec des champignons.
J'ai mangé des quenelles cette semaine.
Je vous reconnais bien là. Eh bien, mon goût de la semaine, c'est le goût de la mi-saison. On en parle beaucoup en ce moment, mais c'est vraiment la fin d'ailleurs de cette mi-saison. La fin de l'été et le début de l'automne, on va dire. Eh bien, moi, c'est le goût des dernières tomates et des premières betteraves. Je me suis fait une petite entrée comme ça avec des betteraves confites cuites au four. 1h15, tout simplement. Il y avait de la rouge, il y avait de la jaune, il y avait de la orange, puisqu'il y a plusieurs variétés de betteraves. Elles n'ont pas toutes les mêmes goûts et les mêmes saveurs. Une vinaigrette à l'orange et au miel, et avec un petit peu d'oseille par-dessus, et bien ce petit côté terreux de la betterave adouci par la note acidulée de l'orange, ça marche bien ça.
Réhabilitons la betterave.
Mais oui, j'adore, arrêtons avec les mauvais souvenirs de cantine. Yves Candebord.
À l'association d'entre-saison, on parlait betterave-framboise.
Ah, c'est super.
C'est un vrai
régal. Vous avez raison, c'est génial
c'est un vrai
ça. Allez, c'est l'heure d'aller au marché. Marion Sauveur a pris son cabas pour nous emmener sur celui qui a été élu plus beau marché d'Île-de-France. C'est le marché d'Aulnay-sous-Bois, un marché auquel, vous pensez bien, les Aulnaysiens sont attachés. Alors qu'est-ce qu'on mange? Eh bien on écoute.
Je viens d'acheter du fromage, du chèvre et de la brebis, et puis des poireaux qui commencent, des pommes de terre, des carottes, c'est très bon les carottes. Il y a du choix et de la concurrence.
C'est un marché de descendance en descendance. Ce sont des anciens que ma mère a connus.
Convivial et on rencontre du monde.
Allez, allez les mineurs, on est là quand même.
Dans mon panier, j'ai des poireaux, j'ai des haricots verts, un butternut.
Tous les trois jours du marché, je viens, j'achète du frais. Qu'est du frais?
Du raisin, des prunes de sorte, il y a de la salade. Par exemple, ce commerçant-là, bah, la plupart de ses produits sont de la région, du Vexin, etc. Donc c'est toujours un gage de qualité, ça n'a pas beaucoup voyagé et c'est important.
Pour manger, j'adore cuisiner, donc c'est le marché et rien d'autre. La qualité est supérieure. À Aulnay, on a beaucoup de chance. Il faut continuer à entretenir ça. Il faut que le plus de monde vienne au marché.
Exactement, madame. Vous avez raison. Tous au marché. C'est une belle initiative, hein, ce plus beau marché d'Île-de-France, qui a été élu justement grâce à l'émission, vous savez, de Jean-Pierre Pernaut, ouais, tous les ans sur TF1, qui s'amuse à organiser un grand concours qui réunit de plus en plus de monde avec la presse quotidienne régionale. Et le marché d'Aulnay, eh bien, a été élu le plus beau marché d'Île-de-France après celui de Versailles. C'est joli quand même.
C'est joli.
C'est un beau clin d'œil. Qu'est-ce qu'on mange au marché en ce moment? Eh bien, on mange des poires. C'est la saison des poires.
Hein. Très belle saison.
Entre les variétés d'été et celles d'automne-hiver, il y a de la poire sur la planche, alors on les récolte juste après ça. Ne bougez pas, bon samedi matin et à tout de suite.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Manger des pommes, disait Jacques Chirac, mais n'oublions pas de garder une poire pour la soif aussi. Juteuse, parfumée, fondante, voilà encore une bonne occasion de remercier les saisons, franchement, pour ce rendez-vous avec une bonne poire. Alors j'adore, parce que là on est vraiment dans l'intersaison, on parlait de la fin de la tomate et du début de la betterave tout à l'heure. Et bien là c'est la fin des poires d'été, comme la Williams, la Guyot, et puis ça y est, les poires d'automne débarquent. Il y a la conférence, évidemment, qu'on connaît, qui est bien allongée, il y a la comisse, il y a la beurre et hardie, il y a la cuisse, madame, enfin bref, il y a plein de jolis noms dans la famille des poires. Hein. Olivier Pouls, vous aimez ça la poire, et la poire nous rattache à notre histoire aussi.
Oui,
hein.
Je vous confie que c'est un de mes fruits préférés, la poire.
J'adore
ça. Alors elle est parfois juteuse, parfois un peu plus ferme, vous avez raison, il y a plein de variétés. Alors la poire, c'est plutôt vers le XVIIe siècle que la France commence à s'en enticher. Alors comme toujours, évidemment, ce sont les rois qui sont servis les premiers. Louis XIV, évidemment, à qui on fait découvrir ce délicieux fruit, et lui s'entiche de là. Du bon chrétien d'hiver, qui était sa poire préférée.
On la trouve encore, celle-là ?
Alors, je pense qu'il doit y avoir des conservatoires, oui, de poires, comme il y a des conservatoires de pommes, et donc quelques arbres encore doivent la produire. Ce n'est pas la poire la plus fréquente qu'on croise sur le marché.
Au potager du roi, oui, à Versailles, ils l'ont.
Exactement. Et puis sinon, c'est le 19e siècle, avec l'explosion de l'arboriculture, les cultures qui se développent, et là, l'apparition de plein de variétés dont vous avez parlé, la Comtesse de Paris, la Comisse, et puis la Conférence, évidemment.
Qui vient d'Angleterre, elle, en fait. Hein,
absolument.
C'est ça. Yves, si on voulait dédier une poire à sa femme, à l'époque, on pouvait le faire. C'est classe,
oui,
hein.
Et oui, parce que quand on entend tous ces noms de poires, il y a quand même une connotation très féminine. Mais quand vous coupez une poire en deux, que vous la regardez,
ouais, c'est
un cœur.
C'est vrai, c'est un cœur.
Pour moi, c'est le fruit de l'amour.
Ouais, c'est beau. Ouais.
C'est le fruit de l'amour. Vous savez, ça a vraiment une forme de cœur.
Mais pour quel poète, c'est Yves Cambon.
Mais
oui,
c'est incroyable. C'est une réalité. Je promets, Laurent. Moi, quand je les épluche, quand on les tranche, je pense toujours à un cœur. J'ai un côté très sentimental avec la poire. Et c'est vrai que les pépiniéristes s'amusaient à donner souvent à des variétés des noms de femmes. Alors, c'était peut-être soit le nom de leur femme ou de leur maîtresse.
Bien sûr.
Et on entendait parler de Joséphine de Malines, de Louise Bonne.
Mais c'est qui cette Louise Bonne?
C'est romantique.
Mais oui, c'est beau ça.
C'est pour ça que la poire, c'est le fruit romantique pour moi.
Eh bien, je suis d'accord. C'est l'heure d'aller justement les cueillir, les amis. Arthur Elmbaché, le correspondant d'Europe 1 dans l'Est, a rencontré Laetitia Hornecker, qui est maraîchère bio, en plein cœur de Strasbourg. Elle gère la seule ferme encore existante dans la ville, en route pour la cueillette.
Alors ici, c'est des poires. Celle-ci, là, c'est les conférences.
Ouais.
Vous prenez la poire et vous la tournez. Et si elle tombe, c'est que c'est bon.
Là, il y en a une pas mal, je vais essayer.
Allez-y.
Alors je la soupèse, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et vous la tournez.
Allez, je fais juste un tour sur elle-même, pas plus. Hein.
Ouais.
Ah, ça, elle est venue sans trop de difficultés.
Ouais, voilà.
Et donc elle est bien celle-là?
Celle-ci, elle est bonne. Allez-y, croquez.
Ouais.
Alors?
Bon, c'est sucré.
Ah, elle doit avoir. Bon. Elle a une peau légèrement fine, sucrée, et elle a un petit goût de musc, ouais. Mmh. Musc, on va dire que c'est un petit côté un petit côté cannelle.
Ça va durer combien de temps la récolte?
Ça va durer à peu près dans les 15 jours maximum. J'ai trois variétés, la Pacam Triomphe, la Conférence et la Haro Suite. Et en fait, il faut plusieurs variétés parce que les poires sont auto-stériles. Donc pour la pollinisation, il faut plusieurs variétés pour que ça se fasse.
Et à part manger dans le verger, qui est quand même la meilleure manière de la consommer, qu'est-ce que j'en fais de ces poires?
Alors ce que vous pouvez en faire, c'est des poires en sirop, mmh, ou des poires en tarte avec un crumble par-dessus.
Ouais.
Et qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? La croquer directement au coin du feu ou sur votre canapé.
Elle a bien raison.
Ou dans Laetitia le studio Hornecker, d'Europe 1.
Ou dans le studio d'Europe 1, ce qu'est en train de faire Olivier Pouls, justement. Bon, merci Arthur Elmbaché pour cette belle cueillette de poire. On a une conférence justement qui est bien mûre, qui est fondante, avec cette chair granuleuse, juteuse, parfumée. Et c'est vrai, elle le disait Laetitia dans le reportage, Yves, il faut vraiment découvrir différentes variétés parce qu'elles ont toutes des goûts différents. Ce petit goût musqué, effectivement, il est à part. Hein.
Oui, complètement. C'est ça qui est intéressant dans la poire, c'est qu'on a vraiment des saveurs totalement différentes selon la région, selon aussi le maraîcher qui les réalise. Mais la poire, pour moi, c'est pratiquement un légume. Parce qu'une poire, on peut aussi bien, je dirais, l'éplucher, la sauter à la poêle, la déglacer avec un petit vin blanc, avec un petit rajout de sucre roux dessus et en faire voilà, une petite poire poêlée.
Avec un magret de canard,
avec
par exemple.
Avec un magret de canard en accompagnement, en rajoutant peut-être une forme d'acidité ouais. avec un petit vinaigre. Mais moi, ce que j'aime particulièrement, c'est prendre la poire, l'éplucher, je l'évide par le fond, je la farcis d'une frangipane. C'est très simple, beurre, sucre et amande en temps pour temps, je la farcis, je la recouvre d'une pâte feuilletée et je la mets au four.
Oh, c'est bien, c'est une sorte de chausson et tarte bourdaloue en même temps parce Exactement. Qu'on retrouve l'amande qui, est, qui fait son caractère
donc,
à la bourdaloue.
En fait, voilà, ça m'arrive sur la table, j'ai une petite boule de pâte feuilletée et quand j'ouvre, j'ai toute l'humidité de la poire. Parce que quand on coupe une poire, ce qui est magique, c'est qu'elle est brillante. Vous voyez, il y a toute l'humidité de la poire qui est conservée et ça donne un goût amande, poire, pâte feuilletée.
Bien, ça.
Alors si par plaisir on peut l'accompagner d'une petite, je dirais glace, une petite glace vanille,
Mais
c'est
oui.
merveilleux.
Ah bah voilà, puis c'est un petit clin d'œil à la Belle Hélène. Faisons des poires Belle Hélène, c'est la pleine saison, Olivier Pouls.
En version salée, il y a une association que j'aime beaucoup, c'est le céleri à la poire.
C'est très très bon.
On fait un millefeuille avec un céleri à peine cuit pour garder du croquant, des fines tranches de poire, on monte ça. Et puis on fait une petite vinaigrette un peu originale. Ça marche très très bien.
Le panais aussi avec la poire. Oui. Une purée de panais avec un petit peu de poire. On va retrouver cette texture granuleuse de la poire qui va donner du caractère à la purée de panais. Yves Candebord.
Ouais, même la poire crue coupée finement, accompagnant avec un fromage bleu.
Ben oui.
Que ce soit un bleu de Termignon, que ce soit un roquefort. C'est une petite merveille. Moi, je vais saluer une association, c'est les croqueurs de pommes.
Oui, ils mangent des pommes, mais aussi des poires de temps en temps.
C'est l'association qui s'appelle comme ça. Et c'est des défenseurs de toutes les fruits qui sont en voie de disparition. Et quand vous allez sur leur site, en plus, ils vous expliquent comment les cultiver, comment les ramasser. C'est vraiment des gens qui font un travail très utile. C'est grâce à eux qu'on a encore toute cette variété de fruits en France.
Vous avez raison, il faut préserver la biodiversité aussi dans nos poiriers. Hein. On a de belles maisons un peu partout en France, dans nos régions, qui ont des beaux poiriers en façade. Alors cueillez vos poires, les amis, et pensez à nous. Chaque samedi, vous le savez, on aime vous donner des nouvelles fraîches de nos assiettes. Eh bien, Marion Sauveur arrive dans un instant avec son journal de la cuisine. C'est juste après ça. À tout de suite, bougez pas, on revient.
La table des bons vivants sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Agriculture, gastronomie, cuisine, chaque samedi nous décortiquons l'actualité de nos assiettes. Alors avant de recevoir le journaliste et écrivain Éric Fotorino sur les coups de midi, c'est l'heure de retrouver notre Claire Chazal de l'alimentation, c'est Marion Sauveur.
Bonjour Marion. Bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver Marion. Eh bien c'est parti pour les titres du journal. Le vin français surtaxé aux États-Unis, la consommation de viande rouge en question et puis le début de la saison de la coquille Saint-Jacques, c'est le menu de votre journal de la cuisine, Marion. Alors, à partir du 18 octobre, les États-Unis vont fortement taxer les produits français.
Du fromage, de la viande, des olives, du vin, de nombreux produits alimentaires vont voir leur prix progresser de 25% outre-Atlantique. Le président américain a obtenu cette semaine le feu vert de l'Organisation mondiale du commerce pour augmenter les prix de 150 catégories de produits. Ouais. Donald Trump a pris cette décision après la mise en place cet été de la taxe française sur les géants américains du numérique.
Mais coup de bol pour lui, je crois que l'auto-bronzant n'est pas français, donc ça ne sera pas surtaxé. Une étude controversée remet en cause les recommandations appelant à limiter la consommation de viande rouge.
Un panel de chercheurs indépendants estime que manger de la viande et de la charcuterie ne fait peser qu'un risque faible sur la santé. Ils conseillent de continuer de manger de la viande rouge, de la charcuterie 3 ou 4 fois par semaine. De nombreux scientifiques contestent les conclusions de cette étude publiée lundi.
Oui, ça fait débat. Hein.
Dans un instant, Laurent, vous reviendrez sur la question avec votre invité Gilles Salva, directeur général délégué à l'ANSES.
Exactement, on va parler de plein de choses qui concernent notre sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire de nos aliments. La saison est lancée pour la coquille Saint-Jacques et le poulpe.
Et oui, les premières coquilles Saint-Jacques sont arrivées sur les étals mercredi. La saison s'annonce bonne, même si selon un rapport de l'Ifremer, la ressource en coquilles devrait être moins importante que l'année dernière. Et depuis mardi, la pêche du poulpe en plongée est de nouveau autorisée au cœur du parc national des Calanques à Marseille.
Qu'est-ce que c'est beau cet endroit.
Bonne nouvelle, tiens.
C'est
une bonne nouvelle.
Place maintenant à votre cerise sur le gâteau, Marion. Aujourd'hui, vous nous présentez un livre.
Oui, et ça s'appelle « Pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas ?» C'est signé Arthur Lequen aux éditions Marabout. Ça vient juste de sortir cette semaine. Et ce livre répond en fait à des questions autour de la cuisine, que ce soit sur les ustensiles ou sur les aliments.
Quel genre de questions alors ?
Alors, pourquoi ne faut-il pas poivrer avant la cuisson ? Je vous pose cette question.
Ah bah parce que ça apporte de l'amertume.
Ouais, ça apporte de l'amertume, oui.
Ça brûle, quoi.
Et surtout, les saveurs du poivre disparaissent à une certaine
température. Ça perd ses qualités, ça donne des nocres acres et amères, effectivement. Pourquoi la découpe des gousses d'ail influe sur leur goût, par exemple ?
Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas que les gousses d'ail, c'est tous les légumes, toutes les protéines. Quand c'est pas coupé dans le bon sens, c'est pas coupé dans le sens de la fibre, eh bien, on n'a pas le même goût, quoi.
Voilà, 700 voilà. questions en tout genre, vous voyez, qui balayent les idées reçues grâce à des démonstrations physiques de la culture générale, et on augmente son niveau derrière les fourneaux grâce à lui.
Bah c'est bien, et combien ça coûte ?
19,90 €, et ça s'appelle « Pourquoi les spaghettis bolognaises n'existent pas ?»
Et pourquoi elles n'existent pas, alors ?
Simplement parce que les spaghettis sont des pâtes du sud de l'Italie, et que la Bologne, c'est donc dans le nord.
Donc ça, ouais, bah on le recevra, tiens, justement, cet auteur. Arthur Lequel, on fera un débat justement sur les pourquoi de la cuisine, sur les ustensiles et les aliments. Merci Marion Sauveur.
Avec plaisir.
Notre alimentation s'invite dans l'actualité, pas toujours pour le meilleur. Botulisme, pesticides, contamination des denrées par les fumées toxiques à Rouen, ça fait rêver. Consommation de viande rouge. Alors pour démêler le vrai du faux, j'ai invité Gilles Salva, directeur général délégué au pôle recherche et référence à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ça c'est un titre, dis donc, il faut de la place hein, sur la carte de visite.
C'est où nous avons de grandes cartes de visite.
Bonjour Gilles Salva, merci d'être là. L'Agence évidemment nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation qu'on appelle l'ANSES et qui préconise de nombreuses recommandations sur la qualité de nos aliments. Quel est votre travail exactement, concrètement ?
Alors, en fait, l'Agence s'occupe de faire de l'évaluation des risques et de la recherche pour les citoyens, pour les ministères de tutelle. Et donc, c'est tout ce champ d'exposition de l'homme dans son environnement au sens large, avec les animaux, avec les plantes, avec l'air, etc., qui intéresse l'ANSES.
Donc, un pôle recherche, un pôle enquête aussi, par exemple, quand on pense à ce cross-country dans le Jura où il y a eu des ados qui ont été intoxiqués, par exemple, par une collation. Est-ce que c'est le genre de choses sur lesquelles vous intervenez ?
C'est le genre de choses sur lesquelles on intervient. En première ligne, ce sont les services vétérinaires locaux qui interviennent. Et nous, on peut intervenir parce qu'on a la plupart des laboratoires nationaux de référence et certains laboratoires de référence de l'Union européenne qui peuvent confirmer des diagnostics sur ce type de toxi-infection. Là, pour le moment, on ne sait pas trop ce que c'est. Les investigations sont en cours. Donc, on a ce rôle un petit peu de juge de paix pour confirmer des cas et vraiment préciser le diagnostic et essayer de lutter contre ces maladies après.
Et à propos d'infection, on a remarqué récemment un cas de botulisme en France. Hein, une dame avec une soupe qui était malade, atteinte de botulisme. Ça existe encore, donc le botulisme. Qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous bien ce qu'est le botulisme pour qu'on comprenne.
Le botulisme, d'abord, c'est une maladie très rare. Hein. C'est 2 à 5 cas par an à peu près. En France, la plupart du temps, ce sont des... Alors, les symptômes d'abord, hein, c'est une maladie qui provoque une paralysie, ce qu'on appelle une paralysie flasque. C'est-à-dire que vous allez d'abord avoir une paralysie souvent des paupières, puis d'un certain nombre de muscles périphériques, puis ça peut conduire à une paralysie des muscles respiratoires et à la mort. Et très souvent, ça conduit à un coma. C'est une maladie très grave. La toxine botulique est le poison biologique le plus violent connu.
Et c'est dû à quoi alors,
c'est une bactérie qui s'appelle Clostridium botulinum qui, quand elle se multiplie, va produire cette toxine. Cette toxine, elle est stable thermiquement, c'est-à-dire que si une fois que la toxine est produite, même si on chauffe l'aliment, on ne peut pas s'en débarrasser. Et cette toxine va se fixer sur les neurones, sur les synapses en particulier, et va empêcher la conduction de l'influx nerveux. Et donc c'est ça qui est responsable
dans les animaux. On la trouve où en fait ? Elle vient d'où ?
C'est Clostridium botulinum, c'est une bactérie qui vit dans l'intestin des animaux, qu'on peut avoir dans notre intestin sans être malade, qu'on peut retrouver dans le sol, qui peut survivre quelques milliers d'années parfois dans le sol. Donc ça peut souiller des légumes lorsqu'ils sont mal nettoyés, par exemple, avant de faire une soupe.
Ouais, donc bien laver les légumes, c'est très important, on ne le dira jamais assez, mais laver bien les légumes.
Et quand on prépare une soupe, une fois qu'on a fait cuire sa soupe et si on veut la consommer le lendemain, il faut absolument la réfrigérer pour éviter que ces spores ne désporulent et ne produisent la toxine, alors qu'au frigo, ça ne se passe pas.
Pas au garage, pas au sous-sol, hein, voilà, pas sur le balcon, c'est au réfrigérateur. Eh bien, on continue de parler de la sécurité alimentaire de nos aliments avec Gilles Salva de l'ANSES. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants. On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Consommation de viande rouge, incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, pesticides et botulisme, la sécurité alimentaire de nos aliments fait les gros titres hein, ces derniers jours. Gilles Salva, directeur à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de nos aliments, est notre invité. On en parle ensemble. Gilles, tiens, parlons un petit peu de notre consommation de viande rouge notamment. Il y a un mouvement, on le sait, on en parle beaucoup ici, qui incite à en manger moins mais de meilleure qualité, ça on est tous d'accord. Mais quand on parle de la quantité de viande hebdomadaire hebdomadaire, on n'est pas tous d'accord. Et l'ANSES avait des préconisations dans ce sens. Quelles sont les préconisations de votre agence sur notre consommation de viande?
Alors, nos préconisations, c'est 150 grammes de charcuterie par semaine et 500 grammes de viande rouge par semaine. Donc ce ne sont pas des quantités qui sont quand même négligeables. Hein. Ça fait,
50 grammes de charcuterie, ce n'est pas beaucoup.
150
grammes, d'accord. Oui, 150 grammes.
Donc ça peut,
et je vous remettrai quelques rondelles de saucisson. Alors.
Oui, je vais bien les reprendre aussi.
Voilà. Et on pourra parler des additifs et pourquoi c'est cette limitation, notamment sur la charcuterie. Mais pour ce qui est de la viande rouge, effectivement, il y a une étude qui est parue cette semaine sur ce sujet.
Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a une étude qui dit que c'est une recommandation de précaution, mais qu'elle n'est basée sur aucune preuve, en fait, votre préconisation.
Alors, comme beaucoup d'études nutritionnelles, en fait, il est très difficile de reproduire une maladie en nourrissant mal les gens. Vous comprenez bien pourquoi.
On va éviter.
Il faudrait des cas et des témoins et ça poserait quelques problèmes. Par contre, on a ce qu'on appelle des enquêtes épidémiologiques d'observation où on associe des régimes alimentaires à des risques particuliers d'événements de santé qui arrivent chez les gens. Et c'est comme ça qu'on fait cette association entre viande rouge et cancer. Après, on connaît quelques mécanismes. Hein. Le fer, par exemple, présent dans la viande, qui est très bon. La viande est un bon supplément en fer pour l'homme. Mais le fer en grande quantité, combiné avec d'autres molécules, peut favoriser les cancers du côlon. Donc, c'est une des causes de limitation de consommation de viande rouge.
Viande rouge, c'est que le bœuf ?
Alors, c'est essentiellement le bœuf, c'est aussi le mouton, voilà. Après, à l'opposé aux viandes blanches, le porc et la volaille en particulier.
Mais le canard peut être considéré comme une viande rouge.
Le canard, viande rouge, viande brune, c'est une volaille, donc c'est une viande certes rouge, mais moins grasse, par exemple, que le bœuf. Hein,
en fait, les chercheurs qui viennent de sortir cette étude, ils veulent nous éloigner du principe de précaution qui est peut-être parfois anxiogène pour la population. Vous pensez que c'est ça aussi leur petite polémique par rapport à votre étude ?
Alors, je me prononce pas sur leur volonté de faire polémique. Ce qui est sûr sur la viande, c'est que le message qui est passé dans cette étude est pas très bon, parce que ce qu'on cherche à faire avec les messages nutritionnels, c'est pas à culpabiliser les gens, c'est à faire que les très gros mangeurs de viande en mangent moins.
Sur la charcuterie aussi, avec les additifs et les sels nitrités. Oui.
Parce que ces très gros mangeurs de viande sont vraiment les populations à risque. Donc, les recommandations qu'on fait sont des recommandations moyennes pour la population générale. Si on dit que toutes ces recommandations, ça ne vaut rien du tout, on ne va pas changer le comportement des gens qui mangent raisonnablement de la viande et qui ont peu de risques de ce fait associés à cette consommation. Par contre, on va inciter ceux qui mangent beaucoup à ne pas changer. Et c'est là que la critique se porte et que la critique de la communauté de recherche se porte.
Autre inquiétude, Gilles Salva, d'actualité pour les Normands de Rouen et des alentours, c'est l'incendie de l'usine Lubrizol. Les consignes qui émanent de la préfecture évoluent chaque jour. Hein. L'eau, elle reste potable, pourtant elle est de couleur foncée. Les fruits et légumes des potagers doivent être jetés. Quel est le rôle de votre agence, de l'ANSES, dans cet épisode ?
Notre rôle, là, va être dans les jours qui viennent d'essayer de hiérarchiser les types de risques qu'on peut avoir avec ce genre d'accident et à partir des analyses qui sont faites sur tous les produits de la chaîne alimentaire, les fruits, les légumes, le lait, les œufs, la viande, d'essayer de voir si la consommation des produits présente un sur-risque pour la population ou pas. Donc on va nommer un comité d'experts indépendants, comme on le fait à l'ANSES, qui va travailler sur les résultats d'analyse qui viendront d'un laboratoire national de référence qui se trouve notamment à l'école vétérinaire de Nantes et qui va nous permettre, en fait, semaine par semaine, de suivre l'évolution de la contamination par certains toxiques qu'on précisera, qui vont nous donner une idée du risque pour la population.
Donc il y aura une transparence, mais en attendant, on leur dit quoi aux habitants de la région de ne plus manger, évidemment, de produits cultivés dans le coin.
Les premières recommandations qui ont été faites par la préfecture et qui sont de bonnes recommandations, c'est de ne pas consommer les fruits et les légumes sur lesquels on a eu de la suie qui s'est déposée, évidemment, parce qu'on peut les laver, etc. Mais on a toujours le risque.
Bah oui.
On a toujours le risque d'avoir des toxiques qui restent. Même chose hier, la préfecture l'a rappelé pour les champignons, hein, la cueillette des champignons. Il faut vraiment faire attention. Ce sont des produits qui sont produits en pleine nature et donc il va falloir attendre quelques semaines, certainement.
C'est des filtres à cochonnerie quand il y en a. Hein.
Exactement. Donc là, c'est les premières précautions. On a le ministère de l'Agriculture a pris un certain nombre de précautions sur la non-commercialisation du lait des bovins qui avaient été exposés. Alors, ce qu'il faut rappeler là-dessus quand même, hein, c'est que les vaches, elles ont été exposées par voie aérienne comme tout le monde. C'est pas ce qui est dangereux pour des produits comme les dioxines qui nous font très très peur dans ce genre d'accident. Les dioxines, en fait, elles vont être nocives par l'alimentation.
On peut les respirer, vous voulez dire ?
Alors, tout cela n'est pas très bon, mais non, en fait, c'est surtout qu'en même temps que les dioxines, on va respirer ce qu'on appelle des hydrocarbures polyinsaturés.
Bon appétit, hein, si vous êtes
voilà, ce qu'on appelle des HAP. Ouais. Il y a aussi des métaux lourds qu'on peut respirer, mais tous ces composés sont essentiellement quand même toxiques par ingestion. Et donc, c'est l'alimentation qu'il va falloir surveiller et la production alimentaire issue de ces...
Et l'eau, on la boit ou pas? Elle est marron, m'ont dit qu'elle est potable.
Alors, l'eau qui était marron, on la boit pas, effectivement, mais il faut savoir que le réseau d'eau potable n'a jamais été touché dans cette affaire, puisqu'il se trouve que les sources qui alimentent la ville de Rouen sont des sources profondes. Donc les nappes phréatiques profondes n'ont pas été touchées et elles sont régulièrement surveillées. Donc il n'y a pas de risque avec l'eau du robinet.
D'accord. Autre sujet qui alimente le débat autour de nos assiettes, c'est celui des dates de péremption, DLC, DLUO. On est un petit peu perdu, alors on en parle juste après ça. Ne bougez pas, bon samedi matin sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Entre les différentes recommandations sur notre consommation de viande, la présence de pesticides dans nos assiettes et la catastrophe écologique de Rouen, il y a de quoi parfois douter de la qualité de nos aliments. Alors nous essayons d'y voir plus clair justement ce matin avec Gilles Salva, directeur à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, entre autres de nos aliments, mais de l'environnement et du travail aussi. Gilles, autre sujet qui fait débat, c'est la conservation des aliments. Alors les gens sont un petit peu perdus hein, quand on parle de date de péremption, DLC, DLU. Comment s'y retrouver? On va profiter de votre présence à la table des bons vivants pour refaire un petit cours de pédagogique. Tiens. Alors tiens, la DLUO.
Alors la DLUO, c'est une date limite d'utilisation optimale. Ce qui veut dire que quand on a passé cette DLUO, on peut encore consommer le produit sans risque. Il risque simplement d'être moins bon. Ça altère la saveur. Ce sont des produits, par exemple les conserves, où on a des produits gras. Bon, on sait qu'au-delà de la DLUO, on va avoir un certain rancissement, même s'il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans les conserves. On peut avoir un rancissement et puis une perte de goût du produit. Et même chose pour les conserves de légumes, etc. Par contre, on peut très bien les consommer après la DLUO sans aucun risque sanitaire, puisque ces produits sont totalement stabilisés par la chaleur.
Oui, c'est le sketch de Roland McDan. Qu'est-ce qui se passe dans la boîte de petits pois dans la nuit du 31 janvier au 1er février, quoi, quand on dit qu'il faut la manger avant le 31 janvier.
Et il ne se passe pas grand-chose.
La DLC, qu'est-ce que c'est que la DLC?
DLC, c'est une date limite de consommation. Là, c'est une limite à ne pas dépasser, au-delà de laquelle le fabricant ne garantit plus la conservation du produit. Donc, le premier phénomène après la DLC, c'est que le produit va s'altérer, sentir mauvais. Alors, si vous prenez une viande au-delà de la DLC, elle va commencer à sentir pas très bon. Et ça donne cette couleur verdâtre un petit peu aux viandes quand elles pourrissent. Donc ça, c'est après la DLC. Donc on ne consomme pas une viande fraîche après la DLC. Même chose pour des charcuteries tranchées ou des choses comme ça. Par contre, il y a des produits... Alors, il faut être très prudent quand on dit ça, mais il y a des produits qu'on peut consommer au-delà de la DLC.
Les produits laitiers, par exemple, on peut manger un yaourt, mais 10 jours, il ne va rien nous arriver.
Les produits laitiers en général...
C'est votre grand truc, ça, il aime, ça.
Les produits laitiers en général...
qui sont périmés de 10 jours.
Pas forcément. Les yaourts, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, les yaourts, c'est un incubateur avec des bactéries dedans. Et les yaourts, après la DLC, sont encore bons à consommer. Si c'est trop longtemps après la DLC, ils vont devenir un peu amers, ils vont devenir très acides et ils seront peut-être un peu moins bons.
On parle de salmonelle aussi, c'est en rapport avec les œufs, ça, en général?
Alors, les salmonelles, on peut en trouver dans les viandes, on peut en trouver dans les œufs. Normalement, un œuf ne contient pas de salmonelle. Un œuf, c'est l'intérieur d'un œuf est stérile. Et donc, on a, depuis 1992 en France et depuis 2004 en Europe, dans l'ensemble de l'Europe, une réglementation qui exige que les poules qui produisent nos œufs de consommation qu'on trouve dans le commerce, qu'ils soient produits au sol, qu'ils soient produits en cage, ces poules sont contrôlées régulièrement pour l'absence de salmonelle.
Vous voulez dire qu'on ne peut pas contrôler celle de notre poulailler,
le problème des poules du jardin, c'est que vous ne pouvez pas les contrôler et qu'en fonction de ce que vous leur donnez à manger, vous pouvez leur donner des déchets alimentaires, ce dont se nourrit une poule.
Ça sert à ça, les poules,
Et ces déchets alimentaires peuvent contenir des salmonelles, elles peuvent garder ces salmonelles qui peuvent se multiplier. Elles ne sont pas malades, elles, avec ces salmonelles. Par contre, vous risquez d'être...
Est-ce qu'il faut garder les œufs au frigo ou pas?
Alors, c'est un grand débat. Normalement, dans les supermarchés, quand vous achetez des œufs, ils ne sont pas au frigo. Parce que sinon, dans la réglementation européenne, des œufs réfrigérés n'ont pas le droit, c'est bizarre, au statut d'œufs frais. Alors pourquoi on les réfrigère pas? Pourquoi on les réfrigère pas? En fait, parce que le problème n'est pas tant la réfrigération que l'aller-retour entre la réfrigération et la température ambiante.
Oui, c'est les chocs thermiques.
Parce que les chocs thermiques vont provoquer de la condensation sur la coquille et l'eau qui est sur la coquille va pénétrer dans l'œuf et va faire pénétrer les bactéries. Et donc on a des œufs qui vont pourrir plus facilement même s'il y a tous ces systèmes antimicrobiens, à cause de ça.
Eh bien, merci beaucoup Gilles Salva, c'est passionnant et c'est intéressant aussi de comprendre ce qui se passe au niveau bactériologique dans nos aliments. Dans un œuf et ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à consulter le site de l'ANSES, amis auditeurs, quand vous avez une question sur l'aspect sanitaire des aliments. Et puis, vous pouvez aussi poser vos questions, vous le savez, au 39-21, bien entendu. Merci Gilles Salva d'être venu. Et pour aller plus loin, je vous conseille un très bon ouvrage, Le Grand Livre de notre alimentation, paru chez Odile Jacob.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Il est bientôt midi moins le quart, alors direction la gare de Lyon, nous avons rendez-vous au restaurant Le Train Bleu avec l'ami Jean-Luc Petit-Renaud. Alors il nous attend, Jean-Luc, dans cette salle classée monument historique pour nous faire voyager avec la cuisine de Michel Rostand, un grand chef de gare en voiture, messieurs, dames.
Eh bien le bonjour, les bons vivants. Alors je vais commencer par vous émietter quelques titres de poèmes. Quenelle de brochet à la lyonnaise, sauce Newbourg, riz basmati grillé. Le gigot d'agneau de nos régions rôties, servi à la voiture de tranche avec un gratin dauphinois. Nous nous trouvons ici au Train Bleu, qui est le buffet de la gare de Lyon. Et au Train Bleu, on a choisi Michel Rostand, qui est un homme de l'Isère. C'est un lieu absolument mais féerique. On a vu sur les voies ferrées, je m'imagine les voyages un peu d'antan, où on arrivait, le monsieur avait son col vison, avec le joli chapeau et la plume de jais, et il déposait ses bagages ici, et il saluait ses cousins qui étaient venus le chercher à la gare. Ou alors il partait et voulait s'assurer que son dernier baba au rhum, mangé, partagé à table, soit juste un quart d'heure avant le départ du train, pour qu'il puisse faire cette petite sieste réparatrice dans un des plus beaux compartiments du wagon. Il y a de la beauté dans l'air, et Michel Rostand est un artiste pour ça. C'est pour ça que je vous citais ces quelques jolis poèmes qu'il sert, avec la côte de veau notamment, encore Foyot, qui a été servi avec un gratin du Forez. On a une géographie servie sur assiette, élégante, luxueuse et belle. Belle comme un grand sourire qui accompagne le voyageur.
Et vive les chefs de gare, Jean-Luc Petit-Renaud, bien entendu. Merci Jean-Luc.
Oui, et puis bravo à Michel Rostand qui a remis le Train Bleu, je trouve, sur les rails, c'est le cas de le dire, gastronomiquement parlant évidemment, avec ses beaux plats qui incitent au voyage.
C'est vrai que c'est un très bel endroit. Magnifique. Alors voilà, c'est pas bon marché, mais c'est une très belle adresse. Il y a Éric Fréchon aussi à la gare Saint-Lazare, qui était le premier. Il y a Michel Roth à la gare de Metz. Enfin voilà, et je voudrais vous signaler la 7e édition des Chefs en Gare. Ça commence lundi du 7 au 13 octobre. L'objectif, c'est de faire découvrir le terroir avec 12 chefs postés dans 12 gares de France. Il y aura Flora Mikula à Bordeaux, il y aura Christian Constant à Toulouse et Christophe Hay à Tours. Voilà, il y aura des démonstrations culinaires entre midi et 14h, donc on peut bien manger dans les gares. On se retrouve juste après avec un grand homme du journalisme, ancien patron du Monde, il a lancé Le 1 et le magazine Zadig. Éric Fotorino est notre invité. A tout de suite sur Europe 1 et bonne cuisine si vous êtes en train de la faire.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Vous êtes bien à la table des bons vivants, les amis. Des poires de saison, un dossier sur l'alimentation et notre santé. En attendant un cake aux pommes pour le dessert, eh bien voilà le menu depuis 11h. C'est l'heure d'accueillir notre invité. Il a dirigé pendant plus de 10 ans le journal Le Monde. Auteur de nombreux romans, il a créé deux nouveaux magazines à succès, Le 1 et Zadig, un super trimestriel. Pour suivre sa route, il faudrait s'arrêter en Tunisie ou au Maroc, pays de ses enfances, puis parcourir le Kenya, l'Éthiopie, le Brésil, du temps de ses reportages. Auteur du très beau roman Mes maillots jaunes, il faut changer de braquet pour suivre le rythme de ce passionné de vélo. Éric Fotorino est notre invité. Bonjour Éric Fotorino.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir.
Bonjour.
Et déjà un grand merci d'avoir créé ce magazine qui s'appelle Zadig. C'est un trimestriel, le tout dernier vient de sortir, il est consacré au travail. Une grande question, le travail, pourquoi faire? Et moi j'ai passé tout l'été avec le Zadig consacré à la nature, avec de beaux portraits, de belles interviews. C'est un autre rapport au temps, hein, ces magazines justement, où on va dans des interviews, dans des portraits qui sont très fouillés et très bien renseignés.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est entouré d'éphémères, de choses qui se dématérialisent beaucoup. L'objet de presse tend à disparaître au profit du numérique, qui a aussi ses qualités, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, j'aime bien mettre du temps dans ce qu'on fait, autrement le temps se charge de l'oublier précisément.
Et vous avez sorti un très beau roman qui s'appelle Mes maillots jaunes.
C'est pas vraiment un roman, ça, c'est plus
récit. Pardon, excusez-moi, c'est un récit, je viens de le lire. Ouais. En plus, c'est pas un roman, oui, parce que vous êtes romancier aussi, vous avez écrit de très jolis livres sur la filiation, mais ça, c'est pas un roman, effectivement. Vos maillots jaunes, justement, vous racontez vos jolis maillots jaunes, vos belles histoires, et vous avez une très belle phrase dans votre livre, vous dites que le vélo est une machine à remonter le temps.
Oui, c'est vrai. C'est vrai ça. Moi, quand je suis allé envoyer, je me suis cassé un bras cet été pour la première fois en plus de 45 ans de vélo, mais voilà ce qui arrive. Mais autrement, j'ai l'impression que j'ai 15 ans quoi, quand je suis sur mon vélo. Je roule un peu moins vite sûrement, mais quand mon ombre me dépasse au soleil, là, couchant, j'ai l'impression que c'est moi il y a longtemps.
Mais on a tous de jolis souvenirs de vélo. Yves Courdebord, je suis sûr que quand on vous enlevait les roulettes, vous en souvenez encore.
Ah ben moi, je me souviens du Tourmalet, je me souviens de Marie-Blanche, je me souviens de l'Aubisque. Ah ouais. Moi qui suis né au pied des Pyrénées et monté ces cloques mythiques la semaine d'après que Job Zoutemelk, Bernard Hinault, Raymond Poulidor les avaient montés, c'était des moments assez extraordinaires. Et arriver là-haut, Laurent, faire le pique-nique, avoir dans sa musette son sandwich, sa petite bouteille de vin, il n'y a rien de plus beau.
Ben c'est magique. Et on retrouve tous ces grands noms du cyclisme, justement, dans ce récit paru chez Stock. Quel est votre goût de la semaine, tiens, Eric Fotorino, vous qui aimez bien manger?
Ma femme, parce que moi, je cuisine très peu, ou quasiment pas, ma femme Nathalie, elle, c'est qu'elle aime bien, c'est le bar en croûte de sel. Et met un peu de fenouil dans la croûte et tout ça. Enfin bon, c'est bon.
Ah, ça, c'est un beau goût de la semaine.
Je confirme que c'est très bon.
Et comment que c'est bon? Vous avez baigné dans la cuisine tunisienne et marocaine, hein, par votre histoire. Le couscous de poisson, par exemple, ça, c'est un plat qui vous parle, ça, hein?
Oui, je me souviens de mon grand-père, qui était un homme qui était né au début du XXe siècle, donc qui était une sorte de force de la nature et qui suçait, mais avidement, jusqu'aux arêtes du poisson qui était comme ça, qui avait cuit au milieu de la graine dorée, au milieu de tout ça.
La substantifique moelle de l'arête. Est-ce que vous connaissez le couscous de légumineuse?
Ah non, je ne connais pas ce couscous. Je sais que ma grand-mère mettait du potiron, elle mettait des choses. Bon, dès lors qu'ils vivaient en France, ils prenaient les légumes qu'il y avait en France. Et vraiment du potiron très fondant. Voilà, mais de légumineuses en tant que telles, non.
Eh bien, on va vous en parler avec Yves Candebord qui a testé justement ces légumineuses qui sont transformées en semoule à couscous. Hein. On pourrait résumer ça comme ça, Yves.
Oui, c'est exactement ça, en fin de compte. C'est de la semoule. Qui est faite simplement avec des légumineuses. Alors, je suis allé faire mon petit marché.
C'est quoi, c'est les lentilles, les pois chiches?
Alors, j'ai trouvé semoule de lentilles corail, semoule de pois chiches et semoule de pois cassés. Mais alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui, Laurent, on en a parlé jusqu'à maintenant, qu'il faut manger moins de viande. Mais il faut quand même manger de la protéine, parce que c'est
absolument
très bien que la protéine, on en a besoin. Et c'est un bon moyen, justement, de diversifier ses repas en réduisant la consommation de viande et en intégrant les légumineuses. Mais les légumineuses, si on les mange normalement, j'ai envie de dire, entre guillemets, comme ça doit être un pois chiche ou une lentille ou un pois cassé, c'est pas très jouissif. Surtout par rapport aux enfants.
Il faut les réveiller avec de l'assaisonnement, avec des techniques de cuisson.
Il faut leur amener, voilà, je dirais, des goûts différents.
Il faut jouer avec, quoi.
Il faut jouer avec et des structures différentes. Et là, ce qui est génial, c'est que vraiment, ça ressemble
à
de la semoule.
Ah oui, c'est dingue ça.
C'est complètement de la semoule. Mais on la travaille en plus de façon très facile parce qu'on la travaille identique à une semoule de blé.
Lentilles, pois cassés, pois chiches.
On peut faire des plats qui ont de la vie, des plats qui sont joyeux, des plats qui sont gourmands. Alors j'ai réalisé 3 petits couscous différents.
C'est magnifique ce que vous avez fait.
Appuyé au départ sur le premier avec les pois chiches. J'ai fait un taboulé libanais, pois chiches, menthe et coriandre.
Bon.
Là, j'ai pris les lentilles avec à peine un peu de haddock, du céleri branche et un peu de granny smith. Ça a une onctuosité, ça a un plaisir et c'est très agréable.
Ça, c'est délicieux. Redites-moi ça.
Ça, c'est
Haddock, pomme granny smith,
et c'est la céleri branche. Et là, c'est la semoule de lentilles.
Oh là.
C'est très, très bon.
Et
c'est
vous l'avez mouillée à quoi pour qu'elle soit
exactement, je ne me suis pas compliqué. Exactement, voilà, une eau chaude, salée, qu'on dépose délicatement sur la semoule, on la laisse gonfler et après, on l'aromatise. Moi, quand je mange ça, les 3 différemment, j'ai presque envie de vous dire, mais là, j'ai mangé du bœuf, là, j'ai mangé du veau, là,
c'est
j'ai mangé de l'agneau. Ça me permet, durant la semaine...
Pas tout à fait quand même. Hein.
Non, mais c'est des goûts différents.
Voilà, c'est le même taux de protéines, pratiquement, qu'une viande rouge. Hein.
C'est pratiquement pareil. Le taux de protéines de ces semoules est à 26 grammes pour 100 grammes, alors qu'un steak haché est à 28 grammes.
Qui fait ça? On trouve ça où, en fait?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les industriels s'y mettent.
Mais
Barilla qui en fait, qui sont très, très bien. Et alors, moi, j'ai acheté un producteur français, s'appelle Lazaretti, même s'il y a une intonation italienne, mais c'est français, qui fait bio et qui est vraiment un produit de très belle qualité. Mangeons mieux,
et moins.
Alors, comment vivre mieux? C'est une question qu'on peut se poser. Eh bien, c'est aussi une question que vous posez à la une du hors-série Le 1, un très beau hors-série. Et il y a pas mal de questions liées à l'alimentation, justement. Oui. On le trouve en kiosque en ce moment et en librairie aussi. Hein,
on peut le trouver. Ben, vous savez, comme justement, on fait en sorte que nous, on resserre nos plats. Je ne dis pas qu'on les réchauffe, mais simplement, comme on essaie de s'inscrire dans une démarche de long terme, beaucoup de textes qui paraissent dans notre hebdomadaire, quelquefois, on les rassemble pour faire un autre menu et puis pour composer effectivement ces petits livres.
On parle de circuits courts, de microbiote et puis de microbiote au supermarché. On vous a préparé un dessert pour garder la forme. Ne bougez pas, un cake aux pommes et aux noix revu et corrigé, il arrive. A tout de suite sur Europe 1, ce sera juste après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle. Bon samedi midi.
C'est moins cher dans le marché couvert. Allez,
3 pizzas gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
La cuisine, c'est quand les choses ont le goût de ce qu'elles sont, martelait le prince des gastronomes Kurnonski. Eh bien, nous sommes tout à fait d'accord avec lui. Pas de chichi à la table des bons vivants. Et petit clin d'œil à tous ceux d'entre vous qui nous écoutent en cuisinant. Nous sommes en compagnie d'Éric Fotorino, romancier et créateur du 1 et du magazine Zadig. Éric Fotorino, vous avez commencé au journal Le Monde en tant que reporter. Éthiopie, Brésil, Kenya, je dois en oublier.
Beaucoup d'Afrique d'abord.
Beaucoup d'Afrique. Hein. Autant de pays que de découvertes de goût, j'imagine.
Oui. Alors, il y avait d'abord un paradoxe que mes premiers reportages en Éthiopie, c'est au moment de la fin de la famine. Donc évidemment, c'était très particulier. J'appréhendais même moi ce que j'allais découvrir. Et je suis allé dans les villages du Tigré, de l'Érythrée, et les paysans partageaient des galettes de teff. Donc c'était des galettes assez épaisses qui étaient larges comme un guéridon de bistrot. Hein. Et ils passaient un petit seau d'eau où on se trempait les mains, on se nettoyait les mains. Et chacun à la main. Prenez ce teff, cette galette de teff, comme une grosse crêpe, hein, avec dessus de la viande un peu effilée, des légumes, du riz. Et c'était paradoxal parce que j'allais au pays de la famine et j'ai très très bien mangé.
Vous avez mangé du crocodile aussi en Afrique, je crois. Hein.
Au Kenya.
Au Kenya, oui.
Au Kenya. Quelquefois, on nous proposait des viandes qu'on n'avait sûrement pas l'habitude de manger ailleurs. Et c'était bon.
Mais c'est bon, oui, ça ressemble à la volaille. J'en ai mangé aussi en Afrique.
Une fois que vous dépassez justement l'imaginaire, ce que vous disiez tout à l'heure est très juste. On est habitué à regarder quelque chose et de dire, ben, on va manger ce qu'on connaît. Mais finalement, une fois qu'on oubliait un petit peu le crocodile, c'était assez fin, oui.
Vous avez grandi à La Rochelle, Éric Fotorino. C'est une ville qui a forgé votre goût marin. Ça, on parlait du bar en croûte de sel de votre femme tout à l'heure.
Oui, alors mon père était kiné à La Rochelle et donc il connaissait quasiment tout le monde à La Rochelle et notamment les pêcheurs. C'était encore un port de pêche important où les chalutiers arrivaient au milieu du port et il y avait ce qu'on appelait l'encan, la criée. Et quelquefois, il m'a emmené là au marché aux poissons. Et à 6h du matin, on pouvait se faire un bon gueuleton avec des très gros coquillages. Moi, j'en ai pris un une fois gros parce qu'il était tout rouge, je le voulais. Je l'ai craché aussitôt parce que c'était pas bon. Alors, en tout cas, je n'ai pas trouvé ça bon. Mais après, les langoustines, les soles, les lottes, enfin voilà. Et puis, il y avait un cuisinier à l'époque qui était assez connu à La Rochelle, qui s'appelait Serge, c'était chez Serge, et qui cuisait très très bien les poissons.
Alors, Marion Sauveur, pour notre dessert du jour, a rencontré une chef pas comme les autres. Elle s'appelle Jennifer Hartsmith. C'est une pâtissière qui milite pour des matières premières brutes. Le week-end, vous êtes d'accord, c'est une bonne occasion de pâtisser. Écoutez bien, elle nous fait un cake de saison, un cake aux pommes et aux noix que vous pourrez refaire dès maintenant.
Donc, à l'aide d'une spatule, on va mélanger le beurre. On a mis aussi le rapadura. C'est un sucre qui est non raffiné. Ça reste un sucre, hein, c'est pas fait pour être sain, mais il a le mérite d'être toujours riche en oligo-éléments, en minéraux, en vitamines. Alors qu'un sucre blanc va être un sucre ultra raffiné, donc pro-inflammatoire et même déminéralisant. Donc, on va éviter. On va rajouter donc 4 œufs, 1 à 1. Et là, maintenant, je vais rajouter mes farines. Alors moi j'aime beaucoup le sarrasin parce que c'est la farine la plus intéressante d'un point de vue nutritionnel. Elle est extrêmement riche en calcium, elle a vraiment ses notes aussi un petit peu grillées, torréfiées. Et la farine de riz, elle est aussi sans gluten. Et l'intérêt dans ce cake, c'est que comme on va y mettre aussi des pommes, la farine de riz, elle va permettre de ne pas avoir un cake trop humide. Donc là, je mets mes deux farines, je rajoute un petit peu de cannelle aussi. Je vais intégrer les petites pommes. Ensuite, j'ai mes noix que j'avais fait torréfier avant, et mélanger. Et là, ma pâte est prête. Je vais la mettre dans le moule à cake et on met ça au four donc à 170 degrés. C'est parti pour 50 minutes.
Et là, ça y est, il est cuit. Hein.
Il est cuit. Bah tenez, prenez une part. Alors le bonheur, c'est de tomber sur une noix.
C'est délicieux, un petit retour en enfance en fait. Hein.
Bah, il a vraiment ce côté note un peu rustique et il est encore meilleur le lendemain quand il sort du frigo. Les arômes ont vraiment eu le temps de se déployer.
Là. Vivement demain.
Voilà, c'est ça.
Assez dur, Marion Sauveur, va falloir patienter jusqu'à demain. Mais c'est vrai que c'est bon quand le cake rassit un petit peu comme ça et qu'il développe son moelleux à l'intérieur. Ça, c'est bien de privilégier des matières premières brutes, des farines comme la farine de riz, le sarrasin, l'épeautre. On a des goûts plus rustiques et puis là, on est vraiment dans la saisonnalité du cake. Si vous voulez le refaire, je vous renvoie au livre de Jennifer Hart-Smith. Elle a sorti un livre qui s'appelle Pâtisserie naturelle aux éditions Marabout. Ça coûte moins de 20 euros. Qu'est-ce qu'on boit avec ce cake aux pommes et aux noix, tiens, Olivier Pouls ?
Du cidre, bien sûr. Bah oui. Un beau cidre fermier. On parlait tout à l'heure des poires, il y a le poiré avec la pomme, il y a le cidre évidemment, ça accompagne magnifiquement tous les desserts à la pomme.
Eh bien on prend. Allez, ne bougez pas, on revient tout de suite pour répondre aux questions que vous avez posées sur le répondeur des bons vivants au 3921. Et Eric Fotorino, notre invité, aura aussi une question à nous poser. Bon samedi, midi sur Europe 1 et bon app et bonne cuisine si vous êtes en train de la faire.
La table des bons vivants sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Des poires de saison, un dossier sur les dangers des aliments, un cake aux pommes qui a tout bon. C'est une promenade de santé ce samedi matin à la table des bons vivants. Et pour continuer la route, Eric Fotorino est notre invité. Eric Fotorino, vous êtes donc le créateur du trimestriel Zadig, de l'hebdomadaire Le 1. Vous avez longtemps travaillé au Monde. Vous avez écrit ce joli récit qui s'appelle « Mes maillots jaunes » paru chez Stock. Vous êtes un grand amateur de vélo. Mais « Mes maillots jaunes » paru en mai dernier remonte le fil de vos souvenirs des grands champions que vous avez aimés. Il a changé le monde du cyclisme entre vos débuts et aujourd'hui. Et vous faites d'ailleurs part d'une chose intéressante quand vous parlez de Bernard Hinault. Vous dites maintenant ils ont tous des lunettes teintées opaques et on ne voit plus le regard, la souffrance des coureurs sur leur vélo.
Oui, il y aurait mille choses à dire sur les métamorphoses de ce sport, mais c'est vrai que comme j'ai été amené à le commenter pour France Télé pendant 2 ans, je voyais qu'on ne les voyait pas, enfin on ne voyait pas leur visage, leur souffrance. Dans les années 60, il y a eu 2 réalisateurs, c'était Louis Malle et Claude Lelouch, qui chacun ont fait des films sur le Tour. Et donc, c'était comme les gargouilles de Notre-Dame. On voyait ces visages transpirants. Mais je trouve que depuis qu'il y a casque, oreillette, lunettes, on a perdu le goût de ce que c'est que le regarder l'effort.
Alors, la bande des bons vivants, vous le savez, est à votre écoute tous les samedis. On écoute vos questions au 3921. En voici une, justement.
Bonjour Laurent et bonjour aux bons vivants qui sont autour de vous. Nathalie de Nuit-Saint-Georges. Voilà, il me reste du safran à la maison et que pourrais-je faire avec cet ingrédient à part m'en servir pour la recette de la paella ? Merci.
Eh bien, une paella. Non, évidemment, il y a plein de choses à faire avec le safran.
Avec des moules.
Il faut peut-être préciser que le safran, Yves Candebord, vous me reprenez si je me trompe, mais il faut toujours qu'il soit dilué avant de l'utiliser quand même, pour qu'il infuse.
Oui, toujours. Le safran, c'est vraiment une épice, j'ai envie de dire, c'est pratiquement l'épice roi pour nous les cuisiniers. Mais ça, c'est très délicat, donc systématiquement, c'est toujours infusé. Alors, moi, j'adore le safran en dessert. Il y a une recette assez exceptionnelle en dessert. On fait une crème anglaise classique. Quand elle est cuite, on met du safran dedans, on laisse infuser, donc ça va prendre ce côté très or.
Ah oui, c'est
et on accompagne, une fois qu'elle est bien glacée, on l'accompagne avec du chocolat. Alors ça peut être avec un gâteau chocolat, moi j'ai une préférence avec une ganache. Ganache chocolat, crème anglaise safran, c'est une petite merveille.
Oh, c'est beau ça. Écoutez Nathalie, vous pourrez peut-être faire ce beau dessert au chocolat. La nouveauté cette année, vous le savez, c'est que nos invités posent une question à propos de la cuisine. Eric Fotorino, vous avez une question à nous poser.
Oui, c'est une question qui me tourmente depuis très longtemps parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, originaire de La Rochelle, la Marais, c'est souvent les langoustines, des belles langoustines de la Cotinière notamment. Et je me suis toujours demandé comment on les cuisait bien. J'ai essayé plusieurs fois de faire bouillir l'eau, de les mettre dedans, d'attendre qu'elles remontent, qu'elles rosissent, etc. Je ne suis pas complètement convaincu de ma réussite. Voilà, donc j'aimerais bien avoir la recette pour pouvoir le faire.
On va les manger cru.
Alors cru, c'est vrai, mais je l'ai fait en tartare ou en carpaccio, mais tout le monde n'aime pas forcément les crustacés crus.
C'est une option, bien sûr.
Yves Candebord, vous, l'inventeur de la bistronomie, comment on la cuisine, cette langoustine ?
Alors Laurent, pour être franc, si vous m'autorisiez un joker, je mettrais un joker.
Non.
Parce que je pense que
le grand Yves Candebord n'a pas la réponse.
Non, mais la langoustine est vraiment peut-être le produit le plus délicat et le plus compliqué à cuire.
Cuisson courte en tout cas.
Alors cuisson courte, déjà, il y a un problème avec la fraîcheur. Autant je dirais qu'un bar qui nous arrive des côtes de France, il n'y a aucun problème. 2 jours après à Paris, il n'y a aucun problème. Quand ça nous arrive, les langoustines au bout de 2 jours, je vous promets, c'est très compliqué, très compliqué. Alors, les cuire dans un courbouillon, les cuire dans de l'eau, on fait bouillir, on les met dedans, quand ça remonte à ébullition, on les enlève.
Voilà, c'est du 3-4 minutes,
mais
ça.
Oui, mais on ne contrôle pas, on contrôle pas. La seule solution que j'ai personnelle, c'est que je les prends, je les retourne à l'envers, j'incise le côté queue,
oui.
Je donne un coup de couteau dans le côté queue, j'écarte donc la carapace. Là, je l'assaisonne de sel, de poivre, je mets un petit trait d'huile d'olive ou voire une noix de beurre, demi-sel, et je les passe au four. Et je reste devant, à quatre pattes devant mon four, comme un véritable...
À quatre pattes devant la langoustine.
Comme un véritable toutou qui la surveille, et je regarde régulièrement. Et quand elle est à peine translucide, je la sors. Et selon la qualité, selon la fraîcheur,
selon la
c'est
taille.
Vraiment selon la taille. C'est très cool.
Ça vous va, Eric Fautorino?
Je t'entraîne de me prosterner devant mon four, mais je suis heureux, comme journaliste, d'avoir posé une question difficile.
Voilà,
mais je
peux vous votre femme va rentrer dans la cuisine et qu'elle va vous voir à quatre pattes devant le four, ça fait toujours un truc. Hein.
Je peux vous assurer que quand vous les sortez, que vous les mangez, qu'elles sont bien cuites, ça vaut le coup de se prosterner.
C'est sûr.
Nous sommes attablés belle jusqu'à image. Midi et demi avec Eric Fautorino, notre invité, créateur du magazine Zadig et du 1, l'hebdomadaire qu'on aime beaucoup retrouver dans les kiosques. Journaliste dans l'âme, vous aimez vous poser des questions? Et bien avec Olivier Pouls, Eric Fautorino, nous allons essayer de répondre à celle-ci. À quoi ça sert le sulfite? Juste après ça, allez la réponse, à tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Merci d'être avec nous à la table des bons vivants. Nous sommes ensemble depuis 11h pour faire le tour de l'assiette. Eric Fautorino est notre invité. Curieux et bon vivant, vous allez passer à la casserole dans un instant de notre questionnaire. On se régale hein, avec ces couscous de légumineuses d'Yves Candebordes. C'est un bonheur, Yves.
Oui, et puis là, en plus, je les ai fait, bon, parce que je les ai fait froid, vu la circonstance du studio. Mais on peut très très bien les travailler à chaud. Comme un couscous traditionnel, en les accompagnant des ingrédients qu'on veut.
Semoule de pois chiche, semoule de lentilles, semoule de pois cassé. Ouais. Enfin, on a le choix. Ça vous plaît, Eric Fautorino?
Ah bah écoutez, moi je vais prendre, je vais tout noter après, mais je vais photographier, je vais faire quelque chose pour garder le souvenir de ce moment.
Vous cuisinez un petit peu à la maison?
Honnêtement, très peu. Mes filles se souviennent que j'ai su faire des purées, des vraies purées avec des vraies pommes de terre, avec le moulin. Là, je peux pas trop faire ça avec mon bras. Et puis un peu de lait, et voilà.
Ah ben voilà, mais on a tous une recette qu'on sait réussir à la maison. Vous, c'est la purée, vous dites.
Moi, comme oui, il y a ça. Et puis l'autre point, quand même, parce que là aussi, mes filles se foutent de moi, c'est que je leur fais un grand éloge de la mouillette dans l'œuf à la coque.
Ah, alors voilà. Donc, vous la tartinez la mouillette ou elle est brute?
Oui. Je la tartine un peu et puis j'ai tout un truc sur la mouillette, ne mets pas ses chaussettes. Enfin bon, après, c'est un truc, c'est un délire personnel. mais ça, au bout d'un moment, elles disent bon, papa, ça va.
Beurre et jambon ou que beurre?
Non, beurre.
Beurre, simplement. Et bien, c'est... Non, mais le calibrage de la mouillette,
très important.
Pour qu'elle trempe bien dans l'œuf.
C'est pour pas que ça déborde.
Mais non, parce que dans l'œuf, tout le jaune part, c'est cool.
Ça va dépendre aussi du diamètre de l'œuf.
Mais oui. Ah, non, mais...
Je pense qu'on peut en parler pendant 2 heures.
Voilà, il y a la géopolitique qui agite le monde, mais pourquoi ne pas consacrer un Zadig uniquement à la mouillette?
Quelquefois, je sors comme ça des préceptes. Et je dis, la mouillette n'est pas une mauviette. On commence la journée comme ça.
Eh bien, on prend. Vous intéressez au vin, Eric Fautorino?
Oui, je m'intéresse au vin, même si je ne suis pas un grand connaisseur. Mais j'ai passé 10 ans de ma vie à Bordeaux. Donc, ma maman travaillait au château Lascombe, donc, qui était un château. Voilà. Et donc, j'ai été un peu nourri de ça. Puis, ma fille aînée est œnologue, donc évidemment, ça m'aide. Mais c'est elle qui fait les choix pour moi.
Ah, vous devez avoir une belle cave, alors.
Oui, elle est évolutive.
C'est ça. Alors, on va essayer de répondre aujourd'hui à une question qui agite un petit peu le landerneau viticole. C'est le sulfite. À quoi ça sert les sulfites? Que sont les vins sans sulfite? Que faut-il en penser? C'est vrai que c'est un sujet qui fait débat et polémique, Olivier Pouls.
Oui, ça fait une bonne quinzaine d'années que ce sujet nous agite un peu tous, avec ces vins sans sulfite qu'on appelle souvent aussi un peu communément les vins nature. Je m'empresse de préciser que la dénomination vin nature n'existe pas réellement. Elle n'est pas légale, elle n'est pas encadrée. Non, les producteurs ne se sont pas mis d'accord sur un cahier des charges, ce qui est le cas par exemple du bio ou de la biodynamie. Contrôlé, certifié, ce n'est pas le cas des vins nature.
On va faire un petit peu de pédagogie. Les sulfites, qu'est-ce que c'est et pourquoi on en met?
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du dioxyde de soufre. C'est du SO2, c'est du soufre, c'est un produit dérivé du soufre. Alors, à quoi ça sert? Ça a deux fonctions. Une fonction antiseptique, ce qui permet de débarrasser le vin de ses bactéries, et une fonction antioxydante, qui permet d'éviter l'évolution prématurée des vins, et donc l'oxydation qui est l'ennemi du vin, bien évidemment.
Alors, les sulfites, ils peuvent être naturels quand même, c'est ça qu'il faut préciser.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans le processus de vinification, de transformation du sucre en alcool via les levures, il y a une production naturelle d'un tout petit peu de sulfite. Donc, le vin sans sulfite absolu n'existe pas. Il y a au minimum le sulfite produit par la fermentation. Ensuite, il y a le sulfite ajouté, celui que le vigneron va pouvoir ajouter. Il y a trois moments durant lesquels il peut l'ajouter.
Lesquels, alors?
Au moment de la vendange, pour protéger le raisin. Au moment de la vinification et de l'élevage, c'est-à-dire au moment où le vin va se retrouver trouver dans les cuves ou dans les fûts. C'est pour protéger l'oxydation en général. Et puis, au moment de la mise en bouteille, ou en général, on rajoute un petit peu de sulfite aussi. Et là, c'est pour assurer la garde.
Il joue le rôle de conservateur, vous le disiez. Oui. Deux fonctions, antiseptique et antioxydant, en fait. Hein.
Voilà. Il faut imaginer qu'un vin sans sulfite, c'est un peu comme un yaourt frais ou comme un lait frais. C'est-à-dire qu'il est extrêmement sensible, notamment à la chaleur, puisque toutes les bactéries sont encore dans le vin. Et les bactéries, dès que la chaleur monte, ben, elles ne demandent qu'une seule chose, c'est s'agiter.
Ça veut dire qu'il faut les boire vite, ces vins-là, alors ?
Il faut les boire plus vite, mais surtout, il faut les conserver, ouais, et les faire voyager comme des produits frais. Vous achetez une bouteille de vin sans sulfite pendant les vacances, vous traversez la France avec la bouteille dans votre voiture, vous arrivez à Paris, le vin, il est mort.
Bon, alors il y a des bons vins sans sulfite quand même, parce que c'est vrai qu'on est tous un petit peu traumatisés par ceux qui sentent l'écurie, le crottin de cheval, alors, et j'en passe,
c'est
des pires.
C'est le problème, effectivement, hein, c'est quand les bactéries se mettent à travailler, vous avez des goûts déviants dans les vins, mais il y a des gens qui maîtrisent ça très bien, surtout quand ça a bien été conservé. Je vous ai apporté un vin totalement sans sulfite, sans sulfite ajouté,
bon,
bien
très,
sûr,
très bon.
Le domaine Case. John Wayne, non fort sympathique.
John Wayne qui fait,
voilà,
du vin.
Exactement, on est dans le Roussillon. Et puis un vin qui était vinifié sans sulfite, mais dans lequel on a rajouté, et c'est ce que font beaucoup de vignerons aujourd'hui, un tout petit peu de sulfite au moment de la mise pour leur permettre quand même et de voyager et de vieillir un petit peu. C'est le château de Chambert à Cahors. Voilà deux beaux exemples de vins dont les doses de sulfite au final sont très basses, mais qui sont tout à fait recommandables.
Eh ben, on retrouvera les références sur europe1.fr. Merci Olivier Pouls, et on vous retrouve tous les jours dans l'équipée sauvage du camarade Mathieu Noël de 16h à 18h.
Et on rigole bien.
Où là, on rigole bien et vous nous faites une petite recette in extremis.
C'est ça, hein, délice in extremis.
Éric Fotorino, c'est l'heure de passer sur le grill du questionnaire, voilà, des bons vivants. Vous êtes prêts?
Ouais.
Attention, ça chauffe. Hein. C'est un barbecue géant. Le goût de votre enfance, Éric Fotorino?
Le goût de mon enfance, ben, c'est un goût finalement assez oriental, puisque quand j'ai été adopté dans une famille qui venait de Tunisie, sont arrivés les poivrons, les piments, la harissa, voilà, des choses comme ça. Donc évidemment, c'est ça. Jusque-là, mon goût était assez neutre et très oubliable. Et tout d'un coup, c'est devenu inoubliable.
La chaleur de l'Afrique du Nord.
Ça chauffait.
Le premier plat que vous avez cuisiné?
Bon, je pense que j'ai fait, comme tout le monde, des œufs au plat et des pâtes pas assez cuites. Mais autrement, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment ce qui a fait que quand j'accueillais mes enfants, je pouvais quand même avoir la tête à peu près haute, c'était de faire une bonne purée.
Vive la purée d'Éric Fotorino. Il y avait la purée de Robuchon, il y a la purée de Fotorino maintenant.
Je suis sûr qu'elle est meilleure.
Votre plus beau repas, Éric Fotorino?
Évidemment, pour moi, un repas, c'est lié aussi avec qui il y a autour. Et donc, c'est des repas de Noël à Dax, au village des Pins. Mes grands-parents, donc, étaient des immigrés, des expatriés, des rapatriés, vous voyez, des rapatriés, pas des expatriés, de Tunisie. Et donc, on les avait installés, comme ceux du Maroc et d'Algérie, au village des Pins à Dax. Et là, ils reconstituaient finalement les plats de l'exil, quoi. Donc, c'était des couscous, des salades méchouïa, des briques à l'œuf. Voilà, donc ces repas qui n'en finissaient pas étaient toujours marqués par ça. Puis comme ma grand-mère peignait, il y avait ses tableaux, il y avait des tapis. On était, moi qui n'avais jamais franchi la Méditerranée, on était de ce côté-là de la Méditerranée.
Alors vous étiez dans les Landes.
Exactement.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Éric Fotorino?
Bon alors, en fait, en réfléchissant un peu, je me suis dit qu'il y avait un invité que j'aimerais beaucoup, c'est Alexandre Dumas. Parce qu'il a écrit son dictionnaire de la cuisine.
Beau mangeur.
Beau mangeur, et il dit que finalement, l'homme a été constitué de telle manière que l'estomac lui réclame de manger trois fois dans la journée pour à la fois le réparer du travail, mais aussi de la paresse. Voilà. Et donc, Dumas, il y a des recettes incroyables de perdrix au chou.
Oui.
Voilà. Et puis, il raconte quand même le foie gras en disant que ce qu'on fait vivre aux oies, on ne l'a pas fait vivre au premier supplicié du christianisme.
Eh oui, donc pas de foie gras. Ouais, bah, ça va être dur, ça, d'arrêter le foie gras pour certains. Votre adresse secrète, Éric Fotorino?
Quand on quitte La Rochelle et qu'on fait le trait de côte, moi je le fais à vélo, il y a une adresse qui s'appelle Port-Lozière, donc c'est dans un village qui s'appelle Lozière, devant le port du plomb. Vous échangez l'île de Ré contre toute la région, en fait, vous n'êtes pas sur l'île, vous êtes en face de l'île, vous avez le pont en face de vous. Et là, bah justement, ils font à la fois des tartares de poisson, des bars, des langoustines qui sont bien cuites. Je ne sais pas si le patron se prosterne devant le four. Mais enfin, à l'arrivée, je suis toujours un peu jaloux de la manière dont il le fait.
Et le mot de la fin, F-A-I-M?
Ben moi, je crois que c'est continuons. Continuons à être bon vivant, parce que dans bon vivant, il y a vivant.
Et puis, il y a ce qui est bon dans la vie. Et le bon de la vie, pour moi, vous savez, pendant longtemps au monde, j'ai été chargé des questions agricoles. Et donc, j'ai sillonné la France, le monde entier, et sur les paysans du monde. Et ça, ça m'a toujours passionné de voir comment on se réunissait. J'ai encore une image dans un éridau mexicain de planteurs de maïs qui sont arrivés vers moi avec un sachet, enfin une poche en tissu. Et il avait des grains de maïs qu'il m'a offert comme des pièces d'or. Et ça, pour moi, je n'oublierai jamais cet homme qui arrivait et qui m'a offert des grains de maïs comme ça. Et donc voilà, continuons.
La préciosité de nos ressources naturelles. Merci Eric Fotorino infiniment d'être venu à la table des bons vivants.
Merci beaucoup.
Je rappelle votre joli récit, Mes maillots jaunes, paru chez Stock. Et puis Zadig, ce beau trimestriel qu'on attendait, le travail, pourquoi faire, une vaste question à laquelle vous aurez pas... Il y a plein de réponses. Si à l'intérieur, justement, il y a beaucoup de réponses. Merci d'être venu à notre table, Eric Fotorino. Vous présidez aussi le prochain Salon du Livre de Brive. Hein.
Absolument, et je pense qu'on mange bien ce Salon du Livre de Brive. Ça a été une de mes raisons d'accepter.
Vous avez bien raison. Merci à Lucie Lescourou, Julien Hamad de m'avoir aidé à préparer cette émission. Jean-Luc Arblade à la réalisation. Agnès Vaudin à la programmation. Les références, les recettes vous attendent sur europe1.fr. Merci infiniment, camarades bon vivant Olivier Pouls et Yves Candebord.
Merci beaucoup.
Bon week-end. À bientôt. Bon week-end. Faites le marché, la cuisine et le reste. À bientôt. Salut Justine. Bon week-end.